sur RFL Ciné, je suis en compagnie de Lucie pour notre rendez-vous hebdomadaire.
Oui, et aujourd'hui on va parler de deux films, comme d'habitude. On va commencer par parler du dernier film de Céline Sciamma, Portrait de la jeune fille en feu.
Effectivement, et dans un deuxième temps, nous parlerons de Music of My Life, donc deux univers
bien différents,
bien différents, comme on aime. On va commencer par le Portrait de la jeune fille en feu, donc un film de 2019, alors qui raconte l'histoire de Marianne, qui arrive sur une île en Bretagne et qui a pour mission de peindre le portrait d'Héloïse, promise à un mariage avec un prétendant à Milan. Un portrait qui est commandé par la mère, puisqu'à l'époque, il fallait faire un portrait pour soumettre la jeune femme à son futur mari, pour voir s'il acceptait ou pas, en fonction des attraits de cette éventuelle future femme. Mais Héloïse a cette particularité, c'est qu'elle arrive après le suicide de sa sœur, et elle est sortie du couvent, en fait. Elle n'était jamais promise à un mariage, justement, et elle refuse tout portrait. Et sa mère la mère explique à Marianne que elle devra la peindre clandestinement presque, puisque elle ne posera pas. Qui va être le cas dans un premier temps, et puis le film va assez vite évoluer vers autre chose, c'est-à-dire vers une histoire d'amour entre Marianne et Héloïse, et va avoir une fin sur laquelle nous reviendrons certainement, assez tragique, puisque leur amour ne pourra pas se concrétiser.
Et on n'en dira pas plus.
Et on n'en dira pas plus.
Donc ça se passe fin du 18e,
oui,
comme tu as dit. Donc on est sur un film d'époque, mais avec un sujet, forcément, l'amour c'est intemporel, mais les en scène et le scénario sont quand même très... Enfin, la rendue, en tout cas pour un film d'époque, le film très actuel. Déjà en choisissant ces actrices, Adèle Haenel, qu'on n'a jamais vue dans un film d'époque, il me semble.
Oui, c'est la première fois, c'est dans le rôle d'Héloïse.
Oui, et puis donc Noémie Merlant.
Dans le rôle de la peintre.
C'est ça. Et donc deux femmes qui vont porter le film d'une façon assez belle, finalement. Donc on est sur la peinture, on parle de la peinture, des femmes peintres au XVIIIe siècle, de ces portraitistes, si on peut dire, qui peignaient de façon anonyme, ils ne signaient jamais leurs tableaux. D'autant plus quand on était une femme. Céline Sciamma voulait raconter aussi cette histoire à travers son récit, l'histoire de ces femmes peintres qui n'ont finalement eu aucune reconnaissance.
On va dire que c'est le volet féministe du film, puisqu'il sera aussi question d'un avortement qui pourra aisément entrer dans cette thématique. Alors moi je trouve que c'est un scénario assez copieux, puisqu'il évoque plusieurs choses. Il évoque donc un amour impossible entre Marianne et Héloïse, puisqu'Héloïse est promise à un mariage, et on est dans une société qui ne permet pas, du fait de ces conventions très oppressantes pour les femmes, pour diverses raisons, mais entre autres pour celle-là aussi, de vivre cet amour pleinement. Il y a donc aussi une critique de la bourgeoisie. 1770, on n'est pas très loin de la Révolution française, même si c'est en arrière-plan, on y reviendra. C'est aussi la peinture d'un portrait, donc c'est un film aussi sur la peinture, et... Enfin, il y a différents niveaux. Il y a évidemment une relecture du mythe d'Orphée et d'Eurydice, qui est très présent tout au long du film.
Que ce soit au niveau, en termes de littérature, en termes de peinture et en termes de métaphore finalement.
Oui, les arts circulent puisqu'il y a une question de musique aussi à un moment donné dans le film.
Oui, mais justement, avant de passer à autre chose, c'est un film où il y a très peu de musique.
C'est
vrai. Justement, les musiques... alors, il y a la BO qui est composée par Jean-Baptiste Delobier, qui est de son nom de DJ Parawan, et qui a aussi créé la BO des autres films de Céline Sciamma, dont Bande de filles. Et donc, il a signé une BO qu'on va entendre au milieu du film, justement. On entend cette BO-là, on entend quelques notes de piano de temps en temps, une fois ou deux fois. Et ensuite, après, ce final assez bouleversant. Mais justement, c'est le fait de ne pas avoir beaucoup de musique dans le film permet au final, cette scène finale, d'exploser.
Je suis venue pour vous peindre. C'était donc ça, vos regards.
Fugiremo, posso, fugiremo, posso, fugiremo. portrait de la jeune fille en feu.
Non, la BO, c'est vraiment une seule, voilà, un seul et même morceau.
Comme on dit, c'est un trajet diégétique, c'est-à-dire que s'il y a de la musique, elle est à l'intérieur de l'histoire, à l'intérieur du film, elle fait partie du film et elle vient tisser. C'est un aspect du film par rapport à tout ce qui se passe et aux différentes strates. C'est qu'il y a une énorme question sur deux cinémas qui rejoint la question de l'art et une question sociale qui est la question du cadrage. Mm-hmm. Puisque Héloïse ne cadre pas par rapport à la société, ne veut pas de la façon dont on la cadre, c'est-à-dire elle refuse de poser pour faire un portrait pour fonctionner dans cette société qui veut des portraits de femmes pour les marier. Donc elle ne rentrera pas dans ce cadre, donc elle refuse de se poser. Et petit à petit, elle va se poser, mais le cadre a changé, puisqu'il y a la relation entre la peintre et Héloïse qui a énormément évolué. Le premier portrait, Marianne l'efface et n'en veut pas. Parce que des sentiments naissent vis-à-vis d'Héloïse.
Oui, maintenant que tu en parles, c'est vrai que les premiers plans sont très très beaux, mais très figés. Voilà, oui. c'est chaque plan est un tableau finalement. Les visages sont très pâles. C'est vraiment de très très beaux plans et qui, au fur et à mesure, prennent vie tout au long du récit parce que du coup, il y a une confiance qui se crée entre les deux personnages et le récit prend une toute autre forme. Mais en effet...
Parce que là, je trouve qu'il y a énormément de cadres, que ce soit des miroirs, des cadres de tableaux, des tableaux inachevés. Le film lui-même cadre le personnage dans des scènes quotidiennes dignes de Vermeer, par exemple dans la cuisine.
Oui.
C'est des films un peu qui reviennent un petit peu à la magie du cinéma du début où on faisait des tableaux en fait, qui permet d'ailleurs de faire le lien entre les différentes strates du film, entre donc comme on l'a dit, l'histoire d'amour, la critique sociale, Eurydice, enfin etc., la peinture évidemment. Je trouve que le film trouve son moteur, si je puis dire, à travers cette question, puisque le cadre est ce qui enferme. Le passage, c'est un huis clos. Ils sont enfermés.
Oui.
Les seules sorties, parce qu'il y a très peu de personnages finalement, il y a la servante, personnage intéressant. Il y a donc ce couple peintre-modèle et la mère qui apparaît finalement très peu. Mm-hmm. Et ils sont à l'intérieur de cette maison et les seules respirations du film, c'est lorsqu'ils vont se promener.
Oui, quand elle se retrouve aussi avec toutes ces femmes un soir.
Oui, un soir, c'est vrai.
D'ailleurs, scène très importante du film, très très
belle. Oui, axiale, je trouve.
Exactement, c'est un peu le noyau du film, oui. C'est la scène qui...
C'est là où elle prend feu. Au sens strict du terme.
Oui.
Feu est une belle métaphore. L'usage qui est fait de cette métaphore, je trouve intéressant, parce que le feu va incarner la légèreté, en fait. Alors qu'on pense que le feu incarne très souvent, enfin, dans notre imaginaire, la destruction. Mm-hmm. Destruction, justement, d'ailleurs, du tableau qui prend feu par moment, enfin, les premiers modèles. Ça va incarner la légèreté aussi, puisque c'est la flamme de la passion.
Je trouve aussi qu'à ce moment-là, on comprend la détresse.
Oui, elle est brûlée de l'intérieur.
Voilà, sa robe commence à brûler, elle le voit et elle fixe Marianne tout en sachant qu'elle est en train de brûler, elle ne fait rien. Donc là, on sent qu'elle est vraiment complètement sortie d'elle-même, en détresse. Et si ces deux femmes n'étaient pas venues éteindre le feu sur cette robe, elle aurait continué de brûler.
Il y a une passivité.
Voilà.
Oui, mais c'est aussi un moment d'intensité amoureuse, je trouve. C'est ça qui est paradoxal.
Oui, c'est le début aussi, comme si quelque chose se comprenait à ce moment-là. C'est le début de
trouve,
oui, aussi.
Le moment où le film bascule en termes de sentiments. Et puis, ça, évidemment, ça ne se passe ni dans la maison, ni au bord de la mer.
Oui, dans un endroit plus neutre.
Encore un troisième endroit.
Et cette scène est d'autant plus forte que c'est vraiment le premier moment du film où on entend de la musique.
Aussi, a cappella.
A cappella, oui, et une musique qui a été donc du coup inspirée de vieux chants bretons et qui du coup donne une dimension très spirituelle au film.
Ce qui est intéressant aussi, si on revient sur cette scène où elle prend feu, ça va être l'objet du tableau de Marianne.
Qu'on voit dès le début.
Ouais,
oui.
Qu'on voit au début.
Oui.
Est-ce qu'à ce moment-là, Marianne perçoit? Parce que quand même le souci d'un peintre, c'est d'arriver à une certaine vérité sur son modèle. Mm-hmm. Donc est-ce qu'elle perçoit, et c'est pour ça qu'elle en a fait un réel tableau, en dehors des règles académiques, puisqu'elle va faire un tableau d'Eurydice un peu pompeux, son premier tableau est un peu pompeux, et si on sort de ce cadre-là justement, et qu'on essaie de trouver une certaine vérité, est-ce que c'est pas à ce moment-là aussi qu'elle rencontre son modèle, puisqu'elle en fera l'objet de son tableau?
Oui, mais j'ai l'impression que son modèle, elle le trouve dès le début, parce que le premier tableau qu'elle peint, finalement, c'est un tableau très académique, comme elle le dit. Elle utilise la technique, mais elle peint avec sa technique, mais elle ne peint pas avec son cœur. Mais même à ce moment-là, pour le premier tableau, je pense qu'elle a déjà trouvé son modèle, mais qu'elle n'ose pas la peindre. Elle va commencer à la peindre à partir du moment où déjà le modèle accepte de se faire peindre et où une relation de confiance est en place.
Oui, alors c'est toute la question de savoir à quel moment ça bascule. Je trouve moi que plutôt au début elle fait ses devoirs, quoi. On la voit, elle fait exactement ce qu'on lui dit. Vous allez peindre en secret, donc elle fait des esquisses.
Oui, mais on sent qu'elle est quand même assez bouleversée par le mystérieux.
Peu à peu.
Oui.
Mais c'est vrai qu'au début, il y a une sorte de mystère qui entoure Héloïse, puisqu'elle refuse d'être peinte. Elle parle très peu, elle est fermée, etc. Effectivement. Mais d'ailleurs, toute cette première partie, je l'ai trouvée assez intéressante du point de vue d'une question générale sur la peinture, puisque je trouvais ça intéressant d'évoquer le fait que lorsqu'on peint un portrait académique, on peint le portrait de quelqu'un qu'on ne voit pas, finalement. Et c'est rendu par cette espèce de commande un peu étrange où effectivement elle doit la peindre sans qu'elle pose. Et finalement, est-ce que c'est pas ce qui se passe lorsque tu fais un tableau de commande, tu demandes à la personne, certes elle pose, mais tu ne la vois pas, ou tu la peins d'après ce qu'on te demande, selon des règles, comme elle disait, des conventions sociales. Et donc c'est un cadre qui ne correspond pas. Donc je trouvais ça intéressant de l'évoquer, la question, comme ça, dans cette première partie. Et la naissance de cette relation, c'est aussi le début d'un vrai regard de l'un, des uns et des autres, puisqu'à un moment donné, Héloïse dit à Marianne, je te regarde aussi.
Oui.
Le modèle, n'oublions pas que le modèle regarde le peintre.
Oui.
Donc là, on rentre dans une relation entre le modèle et le peintre, une relation d'amour. Et je trouve que ça trouve son... et c'est là où c'est intéressant dans le scénario, c'est que ça trouve aussi son épaisseur par la relecture du mythe, que je trouve assez... alors, je suis un peu omnibulé par le cadre, mais qui décadre un petit peu l'histoire, puisque l'histoire d'Eurydice, puisqu'elle la concentre sur Eurydice, puisqu'on dit le mythe d'Orphée, mais c'est le mythe d'Orphée et d'Eurydice.
Cette servante, jouée par... Sophie, qui est jouée par Benjamin. Oui, qui est très bien, qui est superbe d'ailleurs, et donc qui va entrer qui va entrer en lien avec ces deux femmes, et tout au long du film, quand elles ne sont que toutes les trois en huis clos, comme tu dis, elles forment comme une famille.
Oui, il y a une sororité entre les personnages.
Elles vivent toutes les trois, aussi différentes qu'elles soient, sur les mêmes bases. Voilà, elles prennent le même rythme, elles dînent ensemble, elles déjeunent ensemble, elles sortent ensemble.
Il y a une dilution des hiérarchies sociales, en fait.
Oui, mais sans tomber dans le piège du triangle amoureux.
Oui.
Aussi.
Oui, oui.
C'est plutôt bien joué.
Alors oui, il y a cette histoire de... Parce qu'on est concentré quand même sur un couple.
Oui.
Le couple, au-delà du couple peintre-modèle, il y a le couple de deux femmes qui s'aiment, dans une société assez... oppressante finalement pour les femmes, mais il y a aussi la relation d'amitié et de solidarité en fait entre ces trois femmes. Il y a aussi, on brise les barrières sociales, quoi.
Tout à fait, voilà. C'est ça. Il n'y a plus de servantes.
Voilà,
et
ça n'existe plus. Et ça va assez loin dans cette solidarité. Va intervenir aussi à un moment difficile de la vie de Sophie, puisqu'elle devra avorter. La question des dialogues. Moi, je trouve que c'est des dialogues très bien ciselés, vraiment très fins, très, très subtils. Ils ont un peu le défaut de leur qualité, enfin, parce que je trouve qu'il y a quand même une certaine froideur dans le film.
Oui.
Je trouve ça... Il y a une belle lumière.
Il y a une très belle lumière, il y a de très beaux costumes.
Voilà,
c'est vrai. La photo, en général, est très, très belle. Mais en effet, moi, ce qui m'a de temps en temps fait sortir un peu du film, au début, puis après, j'ai pris l'habitude, c'est le jeu d'Adèle Haenel. On a l'habitude de la voir dans des choses qui ne sont pas des films d'époque, et elle a une façon de jouer qui est brute, et une façon aussi de s'exprimer, qui est assez brute, et dans sa voix aussi. Et donc là, on sent qu'elle travaille sa diction. Elle n'a pas travaillé sa voix, mais on sent qu'elle travaille la diction. Et donc c'est vrai qu'au début, de rentrer dans ses dialogues à elle, j'ai trouvé ça un petit petit peu compliqué. Ah oui, c'est ça.
Alors là, pour le coup, je trouve que c'est intéressant d'avoir ce visage un peu... Alors moi, j'ai trouvé, Adèle, j'ai toujours trouvé qu'elle avait effectivement de têtu, mais un peu de boudeur aussi.
Oui,
quelque chose un peu, mais en même temps très joli.
La moue, elle a toujours cette
moue. Une moue un peu boudeuse. Oui, et je trouve que ça correspond assez bien à Héloïse.
Oui.
Au personnage, là pour le coup, c'est un très bon.
Mais c'était super intéressant de choisir cette actrice-là, parce qu'à contrario de Noémie Merlant, qui porte très bien le costume, sens propre comme sens figuré, on rentre tout de suite dedans. Adèle Haenel, du coup, c'est là que c'est super intéressant.
Et c'est la trajectoire du personnage.
Oui, hein. Exactement. Du coup, ça rend le personnage bien plus crédible et ça rend aussi le personnage moderne.
Oui. Parce qu'elle finit quand même par sourire, par s'ouvrir, par accepter les sentiments qu'elle ressent, les vivre pleinement. Mm-hmm. Et c'est vraiment un moment de liberté pour tout le monde, pour Marianne comme pour Héloïse.
Mm-hmm.
On va s'écouter quand même un petit morceau de musique
à ce propos. Oui, qu'est-ce que tu nous as préparé?
A cappella du film, je trouve très beau.
Ah, donc le morceau de Jean-Baptiste Delobier.
Oui, ça peut être pas mal.
De retour sur RFL Ciné, donc on était en train de parler de Portrait de la jeune fille en feu de Céline Sciamma. Pendant ce morceau, on parlait justement de cette histoire de miroir.
Oui.
Justement, de cadrage, de miroir sur certaines scènes.
C'est un petit peu mon entrée dans le film, le cadrage, puisque je trouve que c'est ce qui permet de circuler dans le scénario, entre les personnages, dans les problématiques du film. Et justement, quand on dit cadrage, on dit aussi ce qu'on ne met pas dans le cadre.
Oui.
Que je trouve intéressant aussi dans ce film, et c'est là où il gagne en sobriété, c'est que le discours social, on va dire critique, il est mis hors champ, et on en voit plutôt les effets dans le cadre,
oui.
À travers justement la situation d'Héloïse, qui refuse de se marier, etc., et les difficultés à sortir de cette société très oppressante, et donc de l'avoir mis comme ça en sourdine, mais disons hors champ, hors du film, permet de mieux en apprécier les effets subtils, insidieux, à travers l'incarnation des personnages.
Oui, et permet aussi d'avoir un côté réconfortant et un côté confortable dans le récit du film, comme si ils étaient exilés sur cette île, mais que c'était confortable, puisque comme tu dis, comme la société est hors champ, on ne la voit pas on sait qu'on la craint, et du coup, comme on ne la voit pas, on la craint encore plus, et on est encore mieux dans ce cadre-là, et on est encore plus confortable là-dedans.
Ah oui, ce qui voudrait dire que le huis clos est une sorte d'utopie, un peu.
Oui, comme si on s'y sentait bien, comme si on avait envie d'y rester, nous aussi, en tant que spectateurs.
Ah oui, d'accord. C'est-à-dire qu'on ne serait pas...
Alors, c'est aussi ce côté, voilà, ce côté paysage breton, ce côté château, ce côté... Voilà, les costumes, la chaleur des costumes, la chaleur des pièces... Tout ça rend du coup le film confortable, je trouve.
Ce que tu veux dire, c'est au niveau de l'ambiance, de l'atmosphère.
Oui, pas que, mais oui, en partie.
En partie, d'accord.
Et le fait aussi de ne pas connaître les effets de la société, on en a quelques exemples, mais de ne pas voir la société dans le champ.
Ah oui, oui,
de
d'accord.
De ne pas en avoir conscience.
Oui, c'est-à-dire que ce n'est pas une histoire qui se passe, par exemple, dans un endroit... Dans la cour du roi ou des choses comme ça, et on verrait circuler des personnages.
Ouais, exactement.
D'accord,
c'est ça.
D'accord.
Okay. Là, c'est vraiment un exil, je trouve. On le voit au début, la présence que d'un homme à l'écran. Pendant tout le film, on voit le batelier, du coup,
oui.
Sur sa barque, qui dépose la peintre sur cette fameuse île. Et ensuite, à la fin du film, on le revoit dans la cuisine du château pour venir récupérer, emmener
oui.
Héloïse.
Alors moi, c'est un petit peu mon dada, mais j'aime bien faire circuler un petit peu le sens. Est-ce qu'on, vu qu'il y a le mythe d'Eurydice,
mm-hmm.
Orphée, ça serait Marianne. Il l'emmènerait
mm-hmm.
chercher Eurydice,
mm-hmm.
et elle ne pourrait l'emporter d'Eurydice qu'un souvenir.
Et oui, mais ça nous est clairement dit.
Oui, mais je veux dire, il faut le mettre en lien avec le film lui-même.
Oui, bien sûr.
Au-delà de,
oui.
de la mise en abîme, voilà, mm-hmm. ça serait une mise en abîme en quelque sorte. Et d'ailleurs, c'est intéressant puisque la première image du film, on est dans la barque, on est embarqué.
Oui.
Hein, on n'est pas en surplomb.
Très vite, oui.
Elle n'a pas choisi de filmer en point de vue externe. On verrait une barque.
Oui, puis elle n'a pas choisi de nous raconter l'histoire de...
Marianne.
De Marianne.
Marianne,
oui. On ne connaît rien de Marianne.
Absolument rien. On la cerne à travers ses signes.
Mm-hmm.
Parce que... Par exemple, on sait qu'elle est anticonformiste, par exemple.
Oui, on voit qu'elle fume, elle boit.
Elle dessine des hommes en cachette.
C'est vrai,
voilà.
Oui.
Donc, comme ça, on a des aspects qui nous permettent de la cerner assez vite.
Quand Héloïse lui demande, mais toi, on ne te force pas à te marier? Et elle lui dit non. Et Héloïse lui dit, dans ce cas-là, tu ne peux pas comprendre ma souffrance. Et donc, tu es libre.
Effectivement, ce sont deux femmes d'univers très différents,
oui.
Puisque Marianne fonctionne avec des commandes, en fait.
Mm-hmm.
Et d'ailleurs, il y a quelque chose c'est un petit détail, mais que j'ai trouvé tragique, finalement.
Mm-hmm.
C'est que la mère est satisfaite donc, du portrait final.
Mm-hmm.
Elle va l'envoyer à Milan, et il y a une mise en bière d'Héloïse, puisqu'on le voit le batelier mettre le tableau dans une boîte en bois et de clouer,
et le sceller.
Le sceller comme un cercueil,
mm-hmm.
qui va sceller la vie d'Héloïse aussi. Et ce que j'ai trouvé terrible, c'est qu'elle accepte l'argent.
Oui. Mais parce que,
on revient à des conventions.
Oui, mais pour moi, c'est pas un signe de... Elle n'est pas résignée.
Oui, mais elle accepte l'argent.
Oui. Quelque chose qui m'a marqué, ça.
Ouais, je sais pas, c'est un truc... Je ne sais pas pourquoi elle a accepté l'argent. Je ne sais pas, puisqu'elle a quand même vécu...
Parce que si elle n'avait pas accepté l'argent, elle aurait dû se justifier auprès de la mère d'Héloïse.
Oui, sûrement. C'est aussi par dissimulation, j'imagine, oui. Mais bon, voilà, je trouvais que... Alors, il y a un autre aspect. Alors, il y a juste un petit bémol. Je ne sais pas ce que tu en penses, Lucie. C'est les apparitions fantastiques.
Oui,
pas
oui.
Pas compris à quoi
oui,
ça sert.
Moi non plus. Alors,
je sais pas.
On peut peut-être l'interpréter parce que, pour expliquer un peu la scène, elle a deux, trois images subliminales comme ça qui arrivent.
Oui, des apparitions.
Des apparitions comme si d'Héloïse en robe de chambre blanche.
En Eurydice.
Oui, bah, c'est ça. Et comme un spectre, comme un fantôme.
Voilà.
Alors qu'elle
n'est
pas morte, elle va la retrouver
ouais, voilà.
Deux secondes après dans la chambre. Voilà.
Alors, est-ce que ça veut dire qu'elle a accepté qu'elle fait son deuil? Enfin, je n'ai pas bien compris.
Je l'aurais interprété comme ça aussi, c'est-à-dire qu'elle s'attend à devoir la quitter, et qu'inconsciemment, voilà, il y a son inconscient qui fait le deuil, qui du coup la transforme petit à petit en fantôme. Mais oui, puisque finalement...
Comme une espèce de présence entêtante. Mais je trouve que c'est... Mm. On est quand même installé depuis le début dans quelque chose qui est très ancré dans une époque, dans des problématiques, etc. Et je suis... Alors, en plus, c'est un scénario assez copieux quand même, puisqu'il mm-hmm. fait circuler différents arts, différentes strates.
C'est très, très complet.
Voilà, et cette incursion, là, dans le... Enfin, je sais pas, j'ai trouvé... C'est vrai que ça faisait bizarre.
C'est surtout que quand elle se... Enfin, quand elle tout le film non plus, mais...
Non, mais...
Quand Héloïse voit Marianne partir, la dernière scène d'elle, du coup, c'est elle en robe de mariée blanche.
De mariée, voilà.
Donc, et c'est exactement la même image que le spectre qu'elle avait.
Et pour moi, voilà, c'est amplement suffisant. Au moment de partir, Orphée quitte Eurydice.
Je suis assez d'accord avec toi. Ces plans subliminaux, je ne les ai pas compris non plus.
Voilà,
je me suis dit au début, elle voit ce spectre, elle va arriver dans la chambre, elle va trouver Héloïse morte, et que c'est le spectre d'Héloïse.
Ouais, il y a un truc, ouais.
Mais pas du tout.
Et en plus, c'est pas facile à manier, d'autant plus que, bon, on est quand même dans un château en Bretagne. Je sais pas, après, ça, on convoque des genres, je veux dire, quand on fait ce genre d'image.
Oui, c'est vrai.
On convoque des genres. Mmh. C'est un peu la dame blanche des ados, quoi. Mmh. Enfin, vous voyez. Enfin, tu vois, pardon. Et je trouvais que ça, je sais pas, c'était bizarre. Enfin, donc, c'est aussi là un petit truc
des petites choses incompréhensibles comme
ça. Voilà,
bon. Je pense que ça arrive aussi certainement en complément de choses qui sont indépendantes de notre...
Oui.
Réflexion.
Oui, oui.
Des choses qui viennent alimenter notre inconscient pour mieux comprendre certaines choses.
Peut-être. Faut peut-être un peu de temps, le revoir, je ne sais pas. Oui. En tout cas, moi, à l'heure actuelle, là, je n'ai pas bien compris. J'ai essayé. Bon. Mais moi, après, voilà, comme je disais, tout de suite, ça a été pour moi une image un peu cliché des films. Des films fantastiques.
Oui.
Enfin, voilà. Donc, après, pourquoi pas, mais. J'arrivais pas
à l'associer à quelque
comprendre
chose.
La pertinence du truc.
Bien sûr.
Donc il y a peut-être quelque chose qui m'a échappé, hein, certainement. Et donc, puisqu'on est un petit peu dans les petites critiques, les points négatifs, donc comme tout à l'heure je le disais, je trouvais que c'était un petit peu froid aussi.
Il y a eu certains moments.
Ouais, certaines froideurs.
Froid et qui rendaient du coup certaines scènes assez longues.
Oui.
Finalement, assez dur à tenir. Mais faut aussi prendre en compte le contexte.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire que le fait qu'Héloïse vienne de perdre sa sœur, qu'elle soit en plein deuil, qu'elle soit déjà à moitié dépressive, qu'elles doivent se marier à un homme qu'elle ne veut pas épouser. En plus, elle tombe amoureuse de la peintre. Ouais, en fait, c'est dramatique.
Justement, mais oui.
C'est dramatique. Oui, et les moments...
Justement, il devrait y avoir de l'intensité.
Il y en a de l'intensité.
Quelque chose de plus charnel.
Ah, il y en a de l'intensité. Ce sont des petits moments comme ça, mais qui pour moi sont intenses et qui rendent le récit plus chaud, justement. Je pense que ce qu'on attend arrive peut-être un peu trop tard.
Enfin, je suis pas d'accord. Enfin, je trouve que la lenteur, je la comprends.
Mm-hmm.
Je la comprends complètement parce que justement, il y a quelque chose qui naît progressivement. Et il faut pas oublier que c'est des personnages qui sont un petit peu qui n'ont pas beaucoup de marge de manœuvre avec toutes ces conventions.
Et puis niveau temporalité aussi.
Voilà. Et puis.
Elles sont seules 5 jours, je crois.
Oui.
Donc,
oui.
Ça
mais
5
jours,
vite,
c'est, hein. C'est bien. Moi, je trouve ça intéressant de faire les choses lentement, de manière très subtile. C'est très intéressant. Et on a peu d'occasion de voir ça au cinéma. Mm-hmm. Hein. Les choses vont assez vite. Enfin, bon. Donc, et puis, il y a quelque chose. La lenteur permet d'apprécier la subtilité des sentiments.
C'est
comment
vrai.
Ils naissent, comment mm-hmm. ils se développent. Si on va lentement, on voit les choses se faire. Non, moi, ça, franchement, je suis plutôt un bon spectateur de la lenteur. Mm-hmm. J'apprécie. C'est du road movies intérieur. Non, je plaisante. Mais non, par contre, non, moi, je trouve qu'il y a beaucoup de froideur.
Est-ce que c'est pas aussi dû au manque de son, de musique ?
Non, du tout, au contraire. Au contraire, je trouve que c'est pas... Non, c'est un scénario qui est trop pensé.
Oui, qui n'est pas assez mis en pratique.
Voilà, c'est pensé. Et on le voit à travers surtout les dialogues.
Mm-hmm.
Le corps va petit à petit naître à la vie, avec toute cette question du sourire dans le film. Il faut que tu souris, enfin, faut sourire pour un portrait, etc. Voilà, pour faire un autre portrait. on a l'impression que dans les échanges, il y a une mécanique qui se met en place, qui a sa justification, parce qu'il y a, ce sont des, il y a des parties où les discussions sont subtiles sur l'art, la position, la place de l'art, etc. Bon, ça c'est important, c'est intéressant, d'autant plus que le film justement joue avec les différents arts, donc c'est tout à fait légitime et pertinent. Mais moi j'attendais un petit peu plus, en dehors de ces aspects-là,
un peu plus de rythme, un peu plus de
d'échanges, de chaleur entre les personnages, etc. Je trouve qu'on est on décortique une mécanique. C'est intéressant, c'est important, mais faut de l'intensité un petit peu dans les sentiments.
Mais moi, je trouve que cette intensité, cette chaleur, elle est là, mais elle est transmise à travers les décors, à travers les costumes, à travers les plans aussi, à travers les feux. À travers cette ambiance,
oui, c'est vrai, c'est
visuel. De feu de cheminée, de feu de robe qui prend feu, de tous ces éléments finalement, oui, qui rendent le récit moins froid.
Oui, alors, d'accord, mais c'est quand même l'histoire de deux personnages qui incarnent un certain nombre de choses. Donc qu'on l'évoque indirectement avec des feux, avec la présence du feu sous toutes les formes, etc. Ça, d'accord, ça enveloppe l'atmosphère, ça,
oui,
voilà,
c'est
ça la signifie.
Oui, mais c'est, il n'y a pas
mais
que ça.
Mais je voudrais que les personnages, les personnages un peu plus intenses. Voilà.
On peut terminer sur une phrase de Céline Sciamma.
Je t'en prie,
qui m'a beaucoup plu, et justement par rapport à ce problème de musique qui m'a travaillé quand même sur ce film.
Moi, c'était le cadre.
Voilà. Elle a dit « Faire un film sans musique, c'est être obsédé par le rythme, c'est le faire sonner ailleurs, dans les déplacements des corps et de la caméra. » Et j'ai trouvé ça approprié.
Oui, faudra qu'on la discute. Hein. C'est la phrase, hein. On n'a pas le temps, je crois. Donc, voilà. On est rattrapé par un autre rythme.
Oui, et donc qui n'a absolument rien à voir. Un film que tu es allé voir, que moi, oui, je n'ai pas encore vu.
À mon grand regret.
Apparemment, allez-y, allez voir ce film, parce que c'est un très bon film, mais ne serait-ce que pour la scène finale qui, moi, m'a bouleversée. Et qui m'a redonné de l'élan dans ce film-là. Qui a changé ma vision du... Pas forcément une vision du film, mais en tout cas qui m'a fait vibrer, qui m'a fait vivre un rare moment de cinéma.
Moi, je trouve qu'il faut aller voir aussi le film, parce que je trouve que c'est un film de cinéma. C'est très visuel, avec des personnages très intéressants, des dialogues intéressants, avec les petits soucis que j'ai un petit peu évoqués. Mais globalement, je trouve que c'est un film qu'il faut aller voir, vraiment. À très bientôt,
oui,
Lucie.
Oui, la semaine prochaine, on va parler du film...
Port Authority, je crois.
Port, ouais, Authority et Bacurau.
Bacurau.
Film brésilien qui a fait fureur.
Bon, bah on va voir ça. Ouais.
J'ai hâte.
Ouais, moi aussi. À bientôt.